From the roots up, CIUT 89.5 FM, Toronto.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million Francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pourquoi Chaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et nous ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Cette année, notre partenaire français du monde, Toronto, vous invite à commémorer le 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Le comité Vimy Toronto 2024, avec ses institutions et associations, a à cœur de continuer cette commémoration afin que vive le devoir de mémoire, l'éducation, la conscience morale et notre engagement citoyen dans la lutte pour la paix dans l'avenir. La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Nombre de contemporains et d'universitaires ultérieurs y ont vu un événement important dans l'évolution du Canada vers l'indépendance complète par rapport à la Grande-Bretagne. 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Retrouvez tous les détails sur popourishow.com. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Nous comptons sur votre participation pour cette commémoration 2024.
Bienvenue à Vue d'Afrique. Le 40e Festival international de cinéma Vue d'Afrique se déroule à Montréal, ici même, du 11 au 21 avril. Alors n'hésitez pas à être présent, à partager l'information. C'est une belle nouvelle, 40 ans, ça se célèbre. Le 40e Festival de cinéma Vue d'Afrique est présenté par Québecor, propulsé par les cinémas Guzzo. Tout le festival va se dérouler dans un seul lieu magique, qui est le cinéma Guzzo du marché central. Alors vous connaissez, c'est à Ville-Saint-Laurent. Et on va se retrouver dans 2 à 3 salles de cinéma pendant 11 jours. Du 11 au 21 avril, ne manquez pas le meilleur du cinéma africain créole, ici même, à Montréal.
Bonne arrivée, voisin.
Québécois présente le 40e Festival international de cinéma Vue d'Afrique, propulsé par les cinémas Guzzo. Pour les 40 ans du festival, rejoignez-nous du 11 au 21 avril pour une célébration mémorable dans les salles du cinéma Guzzo du marché central. Information au 263 688 25 81.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, c'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
Oh, désolé, salut la gang, ici Le Flo Franco, fier porte-parole des rendez-vous de la francophonie 2024. En tant que musicien qui définit son univers comme étant de la pop urbaine multicolore, j'ai l'immense privilège de pouvoir inviter les francophones, les anglophones et les francophiles à se joindre aux festivités qui auront lieu du 1er au 31 mars, qui s'avèrent être aussi éclectiques que mon univers musical. Ceci dit, j'ai travaillé un petit quelque chose, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Peux-tu avoir du beat, s'il te plaît? Concours et activité, de quoi vous embarquer, film gratuit et tourné. Vous serez épaté d'un océan à l'autre. On vient vous visiter, les RVF sont là. Sois avec nous, viens péter. Ça passe-tu? Parce que pour moi, ça feel right. Ceci dit, visitez le rvf.ca dès maintenant, parce qu'il y a plein de petites surprises qui vous y attendent. Alors ceci dit, c'est un rendez-vous, on se voit là-bas.
CUT FM, Popourisho, l'esprit d'hiver.
Dimanche 31 mars 2024, édition spéciale, émission de clôture du mois de la francophonie. Créer, innover et entreprendre en français. de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Mise en onde, DJ Devera, production et animation, Eric Kader, qui vous accompagne depuis plus de 37 ans. Pour écouter nos émissions, où que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourishow.com. Et aujourd'hui, nous recevons des invités exceptionnels. Professeur et auteur Aurélie Lacassagne, nouvelle rectrice de l'université de Hearst. Mama Fété, directrice générale et auteur à la tête de Sophie Franc, Niagara et le Salon du Livre des Francophonies à Niagara. Et à la fin de l'émission, une grande surprise, une nouvelle voix partenaire de Popourri Show. Mais qui est cette voix? Qui est-elle exactement? À ne pas rater pour rien au monde, vers 12h50. Et cette émission réalisée en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie, RFI, France 24, TV5 Monde, les rendez-vous francophones, Rire aux éclats, tout un mois de célébration à travers le Canada. L'Université de Hearst, premier établissement universitaire de l'Ontario à offrir des programmes strictement français. Sophie Franc, organisme en action au cœur de la diversité culturelle francophone du Niagara, Welland et Sainte-Catherine. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario. Retrouvez le dernier livre, Voix et visage du français en Ontario aux éditions Prise de parole du professeur Emmanuel de Puchon. Un ouvrage collectif qui donne la parole aux enseignants et encore plus aux enseignants en formation. Ciné Franco qui a mené le bal avec brio pour terminer ce mois de mars en toute beauté. Les éditions Prise de parole ancrées dans le nord de l'Ontario qui publient romans, récits, contes et nouvelles, poésie et théâtre, ainsi que des études, des essais en sciences humaines et sociales portant sur la francophonie canadienne. Et aujourd'hui, Prise de parole vous offre, tenez-vous bien, des cadeaux, très beaux cadeaux, les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin de Thompson Highway, un album jeunesse illustré déjà disponible en librairie et sur le site web de Édition Prise de parole et les mémoires du même auteur qui paraîtront le 14 mai sous le titre d'Éternel émerveillement. Et oui, grandir au pays de la neige et du ciel infini. Aux éditions Prise de parole.ca, participez et courez la chance de gagner ces merveilleux cadeaux des éditions Prise de parole. Popourri Show, CUT 89,5 FM, vous souhaite bon mois de la francophonie. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Départ immédiat. On s'envole en toute élégance sur les cinq continents avec des invités exceptionnels et CUT FM. Bon vol.
Faire la star, je suis venu pour partager de la musique, partager de la joie et des émotions. Nous sommes venus pour faire la fête. Nous allons partir en beauté. Je veux voir tout le monde s'amuser. Au fond, à gauche, à droite, au fond, de ce côté-là. Tout le monde les bras levés, s'il vous plaît. Pour la dernière fois, je veux voir vraiment, vraiment des sourires. Car ce soir, nous sommes tous en feu.
CUT FM, Popourri Show, l'esprit d'ouverture.
Je suis en feu, le titre m'éveille, passez-vous dans la vitale. Je suis en feu. J'ai l'impression de regarder les hublots. Si tu me croises, rien veut. Si tu me parles, rien veut. Si tu me touches,
Oui, soprano, madame, monsieur, qui met le feu dans notre studio. Et oui, on a voulu avoir Aya Nakamura, mais malheureusement, elle est très occupée ces temps-ci. Ah oui, vous savez, la polémique qui entoure cette chanteuse reconnue mondialement. Là, nous entendons soprano, tu es en feu, je suis en feu, de son vrai nom, Saïd Roumbaba, un rappeur et chanteur français, très français, connu pour ses chansons pop urbaines. Eh oui.
J'espère vraiment que vous avez oublié la pluie et que vous avez passé une bonne soirée. On va voir ça maintenant.
La nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourrishow.com, 25 ans, ça se fête.
Édition spéciale, émission de clôture du mois de la francophonie en partenariat avec Mama Fété, auteure, membre engagée au sein de la francophonie ontarienne, directrice générale de Sophie Franc. Et oui, elle nous fera le bilan du mois de l'histoire des Noirs 2024 et le salon du livre des francophonies en Niagara qui a pris fin le 24 mars. Une nouvelle voix, mais qui est cette voix? C'est la surprise de l'émission à ne pas rater vers 12h50. Collaboration spéciale des éditions Prise de Parole qui vous offre de très beaux cadeaux en exclusivité sur CUTFM. Les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin, de Thompson Highway, écrivain, dramaturge, pianiste, auteur, compositeur, cri, originaire de la réserve de Brochet au nord du Manitoba au Canada. Un album jeunesse illustré et les mémoires de l'auteur qui paraîtront le 14 mai sous le titre d'Éternel émerveillement. Grandir au pays de la neige et du ciel infini. Aux éditions Prise de Parole. Participez, courez la chance de gagner ces merveilleux cadeaux. Madame, monsieur, en nous écrivant immédiatement à popourri@cut.fm. Et merci aux éditions Prise de Parole.ca. Mais dans quelques minutes, une survivante de la crise de l'université laurentienne, vous vous souvenez, hein, Sudbury? Une francophone qui fait honneur à la diversité de la francophonie canadienne, ontarienne. Femme engagée, professeure, chercheuse, auteure, chroniqueuse à Radio-Canada. professeure Aurélie Lacassagne, nouvelle rectrice de l'université Hearst. Mais connaissez-vous vraiment ce coin du pays, au nord de l'Ontario? Quels ont été les moments, les temps forts du mois de la francophonie pour vous? Eh oui, que s'est-il passé sur votre campus, dans vos écoles, vos communautés ou votre pays? Allez, j'attends vos réactions à popourri@cut.fm. Tirage au sort d'un cadeau de la Bretagne. Popourri Show, CUTFM. Toute la diversité de la francophonie du monde sur votre fréquence.
Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019, sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, quatrième secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagée dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique, et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Ils s'appuient également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre, en français, l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie, revolte, danse. Et le livre des livres, livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Popourri Show, l'esprit d'ouverture. Édition spéciale, émission de clôture avec CUT 89,5 FM, Université de Toronto, en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, depuis 1991. Popourri Show, la voix des sans-voix, l'émission qui innove, qui casse les codes. Inclusion et diversité sont les mots d'ordre depuis sa création, 37 ans déjà. Participez, courez la chance de gagner un repas pour deux dans un des meilleurs restaurants partenaires de notre émission. Si vous nous écrivez immédiatement à popourri@cut.fm. Et pendant tout un mois, nous avons jonglé avec des mots, des expressions des francophonies du monde. Nous avons, grâce à l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, Radio France Internationale, France Inter et les éditions Prise de Parole, entendu des auteurs d'ici et d'ailleurs. Et d'ailleurs, un grand merci au professeur Emmanuel Le Pichon, directrice du CREFO, pour la belle rencontre du 19 mars
Merci à Sophie Franc, Nafé Faigou, directrice du Salon du Livre des Francophonies du Niagara, qui confirme le dynamisme de l'espace francophone dans ce coin du pays. Et enfin, Marceline, l'infatigable fondatrice de Ciné Franco, qui nous aide à clôturer, à valser au rythme des dernières projections, 7e art, de ce week-end. Et nous terminons ce mois de la francophonie en toute beauté avec un plateau d'invités prestigieux. Professeur Aurélie Lacassa, une nouvelle directrice à l'université Hearst, une université à 100% francophone dans le Grand Nord de la province de l'Ontario. Mama Fete Indira Batware Kibiompi, directrice de solidarité des femmes immigrantes francophones du Niagara, Sophie Franc. Une invitée surprise, et oui, pour la première fois, baptême de la radio. Alors, elle nous offre de tonnes de cadeaux littéraires, mais qui se cache derrière cette nouvelle voix? À découvrir absolument, à 12h50. Mais d'abord, connaissez-vous tous les coins et les recoins de l'Ontario français? Eh oui, combien d'entre vous ont déjà entendu parler Hearst? Une ville à majorité francophone, située dans le nord de l'Ontario. Je garde de très bons souvenirs. Je vous raconterai l'histoire peut-être au courant de cette émission. Ville de plus de 5000 habitants, cette ville la plus nordique à laquelle on puisse accéder par la route transcanadienne, à 935 km de Toronto. Et plusieurs des premiers habitants de Hearst viennent du Québec, d'immigrants européens, entre autres, de la Finlande, de la Suède, de l'Europe de l'Est, de l'Amérique, du Canada anglais. Et dans les années 70-80, la communauté francophone de Hearst participe grandement à l'effervescence de la culture franco-ontarienne avec la fondation du journal Le Nord, du Conseil des Arts, de la radio communautaire CineFM, que je connais bien, des éditions de Nordir et des éditions Cantinal. Et selon le dernier recensement, 93,2% des résidents ont le français comme langue maternelle. Plus de 93% des résidents ont le français comme langue maternelle. Ce qui fait de Hearst la municipalité ontarienne ayant la plus grande proportion d'habitants francophones. Dans le contexte de la crise qui a secoué l'université Laurentienne à Sudbury, vous vous souvenez, en 2021, nos médias ont parlé très très peu de l'université de Hearst. Eh oui, pourquoi? Elle est l'une des seules universités entièrement de langue française du nord de l'Ontario. Elle compte 3 campus, soit à Hearst, Timmins et Kapuskasing. Bien plus qu'une université, c'est un milieu de vie. Le 18 mars 2024, professeur Aurélie Lacassagne figure connue dans le monde universitaire pan-canadien, auteure, chroniqueuse, Radio-Canada, très engagée auprès de la communauté francophone, et chez notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole. Et oui, elle a été nommée rectrice de l'université de Hearst. Et oui, nous avons une relation privilégiée avec elle. Nous l'avons reçue à quelques reprises sur cette antenne, présentant ses œuvres littéraires. Et en 2021, elle n'a pas caché son étonnement suite au licenciement de 110 professeurs et la suppression des programmes de langue française à l'université Laurentienne, où elle a enseigné pendant plus de 15 ans. Embourbée dans une crise financière, l'université Laurentienne a été pointée du doigt par l'Association canadienne des professeurs d'université et plusieurs grands ténors de la francophonie ontarienne pour sa mauvaise gestion et le manque de transparence. Toute cette crise a jeté une douche froide sur la francophonie ontarienne. Et oui, on en parle encore aujourd'hui. Cette situation porte préjudice aux étudiants et à l'ensemble de la communauté francophone dans le nord de la province. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que, lors de mes rencontres, mes activités auxquelles j'ai participé, soit au CREFO ou ailleurs, ce mois-ci, j'ai pu entendre l'ignorance. J'ai constaté l'ignorance de certains sur les réalités et les défis que font face les francophones de l'Ontario. Comment mobiliser francophones, francophiles, les anglophones pro-francophones? Oui, ça existe. Croyez-moi, ça existe. Il y a même des politiciens, des médias. Comment les mobiliser sur les sujets
les préoccupations des francophones. Nous sommes près de 700 000 à parler le français en Ontario. 1,2 million d'Ontariens peuvent s'exprimer dans les deux langues officielles, selon un sondage. Mais le déclin du poids démographique des Franco-Ontariens poursuit sa chute. 3,4% en 2022 contre 3,8% au recensement de 2016. Comment freiner le déclin du français en Ontario, au Québec, au Canada? Allez, nous attendons vos réactions. Peut-être vous avez une baguette magique. À popourri@cut.fm. Est-ce que notre première invitée a le secret, le code secret pour propager la langue française partout en Ontario? Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement celle qui a quitté sa douce France et choisi le Canada comme terre d'accueil en 2002. À titre de chargée de cours à l'université Algoma à Sault-Sainte-Marie, 15 ans à l'université Laurentienne à Sudbury avant de partir pour Montréal puis Ottawa. Elle a publié plusieurs livres chez les éditions Prise de Parole, notamment Ascendance détournée, Quand les Blancs revendiquent une identité, Mémoire éclatée, Mémoire conciliée, Perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne. C'est tout un honneur pour moi de recevoir cette amie collaboratrice en tant que nouvelle rectrice de l'université de Hearst. Bonjour Madame la rectrice Aurélie Lacassagne.
Bonjour.
Et merci de tout cœur de prendre quelques minutes de votre temps si chargé aujourd'hui pour nous aider à clôturer ce mois de la francophonie en beauté. Alors qu'avez-vous fait pendant le mois de mars? Ça a été très occupé.
C'est très occupé effectivement parce que je vais terminer mon mandat un petit peu raccourci de doyenne à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et puis avec l'annonce de ma nomination au rectorat de l'Université de Hearst, ça a fait beaucoup de travail effectivement pour gérer, commencer à préparer les dossiers pour Hearst, clore des dossiers pour Saint-Paul, oui. Et puis profiter un petit peu aussi de toutes les activités qu'il y avait pour ce mois de la francophonie.
Alors pour les gens qui nous écoutent à l'étranger, vous savez, ils sont nombreux. Et pourquoi vous allez quitter la capitale fédérale, vous allez quitter, parce que vous n'êtes pas très loin du Québec, hein, pour vous rendre à Hearst, qui est très éloigné, c'est dans le grand nord de l'Ontario, il fait très très froid, j'en connais quelque chose, parce que j'y ai passé quelques mois pour le travail. Et d'ailleurs, c'est quoi la fonction première d'une rectrice d'université en Ontario français?
Mais je pense que c'est tout d'abord vis-à-vis de la communauté universitaire de donner le cap, si vous voulez, hein, c'est être le capitaine du bateau. Et puis, mais c'est vrai que de façon générale, et vous l'avez souligné, c'est très important, l'université de Hearst joue véritablement un rôle de moteur économique, culturel, social, dans les trois communautés qu'elle dessert, donc Hearst, Kapuskasing et Timmins. Et puis les villages environnants. Donc c'est extrêmement important cette implication communautaire et ce rôle communautaire que l'université francophone, donc minoritaire si vous voulez en Ontario, joue. C'est pas une tour d'ivoire cachée et déconnectée des réalités des communautés. C'est pas possible dans le milieu francophone en Ontario.
Et toutes mes félicitations pour votre nomination, vous faites honneur à la francophonie et surtout pour les néo-canadiens. Vous la voyez venir, cette nomination, ou c'était plutôt une surprise?
C'est toujours un petit peu une surprise parce que on se lance dans un concours et on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est sûr que j'aurais pu rester à l'Université Saint-Paul, j'étais très bien, mais le nord me manque. Je dois avouer, comme on dit, on peut sortir la fille du nord, mais on peut pas sortir le nord de la fille.
Mais j'entends souvent le contraire. Il y a des gens qui disent le sud me manque.
Oui, sûrement, effectivement. Puis moi, c'est le nord qui me manque. Le nord, C'est chez moi, ouais. C'est cette communauté du Nouvel Ontario qui m'a accueillie il y a 23 ans maintenant. Et puis j'avais, quand j'ai vu que le poste ouvrait, je me suis dit que ça serait une bonne façon de retourner chez moi et de desservir, ce que j'ai fait depuis toutes ces années, de desservir ma communauté d'accueil parce que ça marche dans les deux sens. J'ai été formidablement accueillie. Et donc j'ai envie de redonner à cette communauté. C'est moins évident de le faire à Ottawa où la communauté est un petit peu une communauté franco-ontarienne qui est différente, si vous voulez. Et donc je me suis dit que ça serait une belle opportunité de retourner chez moi et d'aider ma communauté dans un paysage, dans un contexte universitaire francophone en Ontario qui est fragile, disons.
On voit bien que vous avez épousé cette communauté franco-ontarienne. Vous dites « ma communauté ». Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute. Ils sont beaucoup qui nous écoutent en Afrique, en Bretagne, à Lyon, à Toulouse, au Québec, un peu partout, à l'île Maurice. Et moi, ça fait bientôt 44 ans au Canada et j'ai vu malheureusement beaucoup de situations très difficiles pour les professeurs, les enseignants étrangers francophones. Je pense ici à un certain nombre de cas où professeurs, surintendants de conseils scolaires ont été forcés de porter plainte contre leurs employeurs pour cause de discrimination. Ils ont eu gain de cause, hein, mais ça a pris beaucoup de temps et tant de souffrance. Il y a un professeur d'origine malgache que j'ai bien connu, mais qui vivait à Ottawa, qui est malheureusement décédé avant que son affaire soit traitée en cours. Et donc, quand on a entendu cette nomination, votre nomination, beaucoup de ces anciens auditeurs à invités de notre émission m'ont appelé, m'ont dit « Ah, comme s'il y a une lueur d'espoir quelque part, et ils trouvent qu'il y a vraiment, que l'université Hearst va dans la bonne direction. On sent que le vent est en train de changer de direction. Et je sais que vous êtes très sensible à la diversité de la francophonie. Vous avez écrit des œuvres formidables sur les cultures créoles, la langue créole. Vous êtes venu à cette antenne. Et là, j'aimerais que vous passiez un message d'espoir, d'encouragement pour tous ces gens qui malheureusement n'ont pas eu cette chance que vous avez aujourd'hui. Quel message vous pourriez peut-être passer, message d'encouragement, à ces personnes qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas arrivé à franchir le poste, même d'avoir une entrevue pour un des postes dont ils ont postulé?
Oui, effectivement, vous avez raison. Faut pas. Il y a encore énormément de problèmes de discrimination. Vous l'avez rappelé, c'est un dossier sur lequel je travaille beaucoup sur l'immigration et sur l'intégration de tous les francophones. Pour moi, c'est évident que si on veut une francophonie forte, il faut reconnaître le caractère pluriel de la francophonie. L'université de Hearst, c'est un laboratoire extraordinaire. Parce que c'est vrai que c'est une université qui accueille en majorité des étudiants francophones qui viennent de l'étranger, pour la plupart du continent africain. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrivent dans ces petites communautés, et parce qu'ils arrivent en relatif petit nombre, hein, c'est une toute petite université, on a le temps de faire ce travail d'intégration. Et toute la communauté a embarqué, si vous voulez, dans ce projet de l'université, parce que ils voient bien que c'est une ça apporte du sommage, ça apporte de la joie de vivre, ça apporte aussi une force de travail. Il y a plein de petits magasins, restaurants, hôtels qui dans ces communautés sur le corridor de la 11 ont pu survivre parce que y a des étudiants qui ont besoin d'une petite jobine et qui vont travailler. Et ça se passe très bien, et la preuve, Eric, c'est que 54% de nos diplômés étrangers restent dans le nord de l'Ontario.
Ah oui.
Donc ils restent, ils se marient, ils vont faire des enfants, ils travaillent. L'université de Hearst arrive à faire ce que on essaye de faire, mais qu'on fait très mal malgré beaucoup d'argent et beaucoup de programmes, à savoir la régionalisation de l'immigration. Et ça, c'est quelque chose dont je suis particulièrement fière et que je veux continuer à développer. Et je pense que ça peut servir de modèle pour d'autres régions.
Et d'ailleurs, quand on va sur votre site, qui est très bien fait d'ailleurs, l'université Hearst, on voit tout de suite la photo d'une Asiatique, d'un Africain et puis des Franco-Ontariens. Je trouve ça très bien de donner le ton. Dès qu'on va sur votre site, on voit cette diversité de visages sur le site web de l'université. C'est formidable et comme ça, ça donne envie, le goût d'aller piocher et trouver d'autres informations intéressantes, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, puis c'est une diversité qu'on retrouve dans le corps professoral, qu'on retrouve chez nos employés. Donc effectivement, il y a un véritable souci de reconnaître c'est ça, les compétences de tous. Moi j'espère pouvoir beaucoup travailler au développement de programmes qui justement pourront aider des francophones issus des minorités visibles, comme on les appelle, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, et dont la reconnaissance des types des compétences pose problème, on le sait, vous en avez souvent parlé à votre émission. Alors j'espère pouvoir mettre en place quelques formations un peu passerelles, si vous voulez, pour mieux les intégrer sur le marché du travail. Ça, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. J'espère simplement que les autres professionnels vont être à mon écoute.
Et d'ailleurs, j'aimerais passer, parce que là, je vois qu'il y a des tomates ou des œufs qui vont être lancés à mon égard aujourd'hui, parce que je dis, moi, j'aime le Sud et pas le Nord. Alors, moi, je rappelle les gens que j'adore le nord de l'Ontario. J'y ai travaillé à Sudbury, Kapuskasing, Dryden, Fort Frances, Kenora et Hearst. Et Hearst, je garde un bon souvenir, cher professeur, madame la rectrice, parce que quand il y a eu la libération de Nelson Mandela, j'étais à Hearst, coincé dans un motel, j'oublierai jamais ça, parce qu'il y avait une tempête de neige. Et vous savez, c'est des petits avions hein, qu'on a dans ce coin-là. Oui. Alors les avions ne pouvaient pas décoller pour Toronto. Et donc, je suis resté, malgré moi, coincé à l'hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télévision parce qu'il y a une tempête de neige, hein. 40, 50 centimètres de neige. On peut pas bouger. Et donc, j'ai assisté à la libération de Nelson Mandela. Ça m'est resté gravé dans la mémoire. Donc, il y a des bons souvenirs quand même. Et puis aussi, bien sûr, il y a la radio, Cine FM. Et quand on est à Hearst, d'ailleurs, on se pense un peu dans un autre pays. On se dirait pas qu'on est en Ontario. Ça parle français partout. Et les gens ont une démarche différente, très à l'aise. Ils aiment le sens, ils ont le sens de l'humour. Et ça parle français partout. N'est-ce pas?
Effectivement, on a l'habitude d'appeler le petit village gaulois.
Oui. Alors, l'éducation à l'heure des nouvelles mutations. Votre arrivée en poste coïncide avec un moment de grande incertitude pour le milieu de l'éducation postsecondaire au pays. Vous avez vous-même subi de mauvaises expériences, hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça mauvaise expérience, en 2021 avec la crise à l'université Laurentienne, ce qui a semé le choc d'un bout à l'autre du pays. Vous allez quitter maintenant Ottawa, capitale fédérale du Canada, pour vous établir dans la région de Kapuskasing, ville industrielle dans le nord, ville qui a été au cœur de la crise du bois d'œuvre il y a quelques années de cela, je pense que c'était en 2016. Il y a même un documentaire de l'ONF, l'Office national du film, qui a fait un très beau documentaire là-dessus. Cependant, j'ai appris que les étudiants étrangers du campus de l'université de Hearst ont redonné vie à la municipalité de Kapuskasing. Personnellement, je les trouve très courageux car l'hiver est extrêmement rude dans le nord, mais ça démontre encore que les étudiants étrangers peuvent être une source de développement d'une région.
Tout à fait. C'est extrêmement important. On la voit, cette diversité. Là, j'y suis allée au mois de février et on la voit partout et c'est très beau. C'est sûr que c'est froid, mais... une fois de plus, il y en a beaucoup qui restent. J'ai eu un étudiant là qui était brillant à la maîtrise à l'Université d'Ottawa il y a 2 ans. Je lui ai envoyé, il y avait un poste à Thunder Bay et on s'est parlé hier soir, il est haïtien. Il est parti avec sa femme et ça fait maintenant 6 mois qu'ils sont là-bas. Il vient de passer son premier hiver à Thunder Bay et il me dit... mais c'est formidable ici, la nature c'est beau, c'est calme, on aime bien ça. Ils ont trouvé aussi, lui et sa femme, justement des emplois qui correspondent, si vous voulez, à leur qualification. Et souvent, ça c'est un peu un passage oublié, en tout cas ça a été ça a été mon parcours de vie aussi. Quand on arrive comme ça dans le Nord, et ben on a plus de chances de trouver on est un gros poisson dans un petit pétanque.
Oui, voilà.
Plutôt d'être un petit poisson dans une grande mer. Mmh. Et moi je dis souvent à mes étudiants, hésitez pas à faire ce saut-là, vous le regretterez pas.
Alors le gouvernement ontarien a annoncé récemment, vous êtes au courant sans doute, qu'il fera des étudiants étrangers francophones une cohorte prioritaire. Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce que je vois, d'après certains ténors de la francophonie, ils hésitent à endosser cette décision du gouvernement parce que c'est devenu un genre de balle de ping-pong, hein, parce qu'il y a la crise de logement, mais il y a aussi, ça paraît, des étudiants qui ont abusé le système. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Ben écoutez, je pense qu'il est effectivement très important de maintenir le nombre de permis aux étudiants étrangers francophones pour les universités francophones en situation minoritaire. On s'entend tous pour dire que c'est pas nous qui sommes responsables de la crise du logement. C'est pas les quelques peut-être centaines d'étudiants qui viennent dans les universités francophones en Ontario qui sont responsables de la flambée des prix du logement. Donc il faut être sérieux et une fois de plus. Pour nous, il s'agit d'une question de survie, de développement, d'épanouissement. Il ne s'agit pas de faire de l'argent comme le faisaient des collèges privés, par exemple, où c'était l'usine. C'est pas ce qu'on est en train de faire. C'est pas notre modèle d'affaires. Donc, effectivement, c'est très très important qu'on puisse ne pas avoir à payer. Des erreurs et une approche mercantile d'institutions privées anglophones.
Oui. Alors, nous terminons le mois de la francophonie grâce à nos médias partenaires. Nous avons eu la chance de voyager à travers la planète. On apprend le français en Afrique du Sud, en Corée du Sud plutôt, et en Inde. Alors qu'au Canada, plusieurs études nous démontrent une certaine inquiétude. Hein, au Québec, la langue française ou la langue anglaise plutôt se propage à une vitesse d'un TGV. Professeur, Madame la rectrice, comment voyez-vous l'avenir de la langue française au Canada en deux mots?
Et je pense que la meilleure façon de développer la langue française au Canada passe par cette frilosité qu'on a et cette quelque part peut-être une mentalité d'assiégé en disant on est en train de disparaître. Ça passe par la reconnaissance du multilinguisme. Mmh. Vous savez, j'y tiens beaucoup à cette question-là.
Oui.
Il faut reconnaître le multilinguisme et il faut reconnaître que la langue française, pour beaucoup de personnes, pour vous, pour moi et pour des centaines de milliers d'autres au Canada, c'est une langue parmi d'autres. Et du coup, si on en fait moins la langue absolument, je pense que ça va beaucoup aider si on arrive à reconnaître que c'est pas grave de parler anglais, c'est pas grave d'avoir une autre langue maternelle du moment que les gens parlent le français, qu'ils lisent en français, et que c'est une langue qu'ils maîtrisent. Et ça, je pense que c'est important comme message à envoyer.
Oui, et nous sommes, je rappelle aux auditeurs, 321 millions sur tous les continents à parler le français, 81 millions la parlent comme langue maternelle, tandis que 255 millions l'utilisent quotidiennement dans leur interaction, révélant la portée et la vivacité du français bien au-delà de ses racines européennes. La francophonie n'est plus une question exclusivement linguistique. Il y a tant d'approches possibles. La francophonie est politique, culturelle, littéraire, géographique, historique, démographique, économique, juridique. Et je pense que c'est une arme qui pourrait aussi nous aider à développer. Moi, j'aime beaucoup le côté écologique de l'Université Hearst. Mm-hmm. Il y a un paragraphe là. Je demande aux gens d'aller voir ce beau site web de l'Université Hearst. Vous êtes dans le Grand Nord et on est en train d'intéresser ces jeunes qui viennent chez vous à aussi admirer, mais aussi à respecter cette grande nature du Nord de l'Ontario. Ça, c'est unique.
Oui, c'est sûr. Bah, comme je l'ai précisé, on est vraiment ancré dans notre communauté, on est ancré dans notre environnement. C'est ce qui a déterminé l'avenir de ces communautés. Et si on veut que ça se poursuive, il faut effectivement être en harmonie avec l'environnement qui nous entoure. Et donc ça c'est extrêmement important et c'est central dans le travail de l'université. C'est très transversal aussi dans les connaissances qu'on transmet aux étudiantes et aux étudiants.
Oui. Et pour terminer, si vous permettez, je vais dire aux auditeurs mes observations personnelles sur tout le travail que vous avez fait, que vous avez réalisé depuis que vous êtes ici. Et comme mot de la fin, j'aimerais vous dire tout d'abord combien on vous apprécie, on vous aime parce que vous faites un travail extraordinaire, que ce soit au point de vue littéraire, à la radio. On vous a entendu plusieurs fois dans des grands débats, des chroniques à Radio-Canada. Vous travaillez toujours à Radio-Canada? Vous allez laisser votre poste à Radio-Canada?
Malheureusement. Après plus de 17 ans de chroniques sur les ondes de Radio-Canada dans le nord de l'Ontario, il va falloir que j'abandonne ça.
Vous êtes une des rares professeurs toujours accessibles et on le voit bien à travers vos ouvrages, à cette sensibilité, cette compréhension de cette province, je dirais même de ce pays, ayant une pluralité d'histoires. Vous êtes soucieuse du bien-être de vos étudiants, de vos collègues, l'acceptation de la différence des communautés raciales, de la diversité sexuelle. Votre cheminement professionnel nous inspire et j'espère vous recevoir de temps en temps pour justement parler un petit peu des nouveautés et je sais pas, des projets, des enjeux au niveau de l'éducation dans le nord de l'Ontario. Le micro est toujours ouvert. Donc, j'espère vous recevoir régulièrement sur cette antenne et au nom de toute l'équipe et au nom des auditeurs qui sont à l'écoute, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé ce temps parce que je sais que vous êtes très occupé. Vous avez de la grande visite aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, c'est un dîner pascal qui m'attend, mais je vous remercie beaucoup de cette invitation puis je suis effectivement toujours disponible. C'est toujours un plaisir de partager avec vous et avec vos auditeurs.
Alors, on vous appelle désormais Madame la Rectrice. Je vous remercie infiniment. Que la force soit avec vous et on se reparle très, très bientôt. Bonne journée et au revoir.
Merci.
Interprétant, j'attends. Voici Charlotte Cardin-Gonier.
Charlotte Cardin, artiste du Québec. Prix Juno 2024, album de l'année.
Tu occupes mes jours comme si tu existais. Oh, oh. Oh mon amour, déjà je t'imagine en plus que parfait. Oh, 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 oh. À tout moment, je pense à toi. Bien trop souvent, je pense à toi. J'en vis l'amour. Que je n'ai pas. J'attends le premier bonheur du printemps. J'entends les battements d'un cœur impatient. Oh, je ne sens plus les heures et pourtant j'attends. Si tu existais, oh, oh, oh mon amour, déjà je t'imagine en plus que parfait. Oh, oh, j'attends les premiers bonheurs du printemps. Oh, oh. Déjà je t'imagine non plus que parfait. Oh, 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 oh. À tout moment je pense à toi, bien trop souvent je pense à toi. J'envie l'amour, l'amour que je n'ai pas. Si tu existais, oh oh, oh mon amour, déjà je t'imagine non plus que parfait.
Charlotte Cardin, artiste du Québec, prix Juno 2024, album de l'année. Très 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 apprécié bien sûr au Québec, mais aussi en France. Nous l'avons rencontré à quelques reprises sur les plateaux de télévision. Et oui, entre autres TV5 Monde. Et dans la deuxième heure, nous allons recevoir la grande fêtée Indira Batoire Kimbiokli. C'est la directrice générale de Sophie Franc qui nous parlera du Salon du Livre du Niagara, Salon du Livre des Francophonies du Niagara, et aussi petit hommage à Manu Dibango. 4 ans déjà, incroyable. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Popourri Show, l'esprit d'ouverture.
CIUT 89.5 FM, Toronto.
Pour Pourricho, CUT 89.5 FM, vous souhaite bon mois de la francophonie. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Départ immédiat. On s'envole en toute élégance sur les 5 continents avec des invités exceptionnels et CUT FM. Bon vol.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Créée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie rassemble et mobilise 88 États et gouvernements, dont 7 associés et 27 observateurs. Cet ensemble représente 17,5% de la population mondiale et contribue à 16,6% du PIB mondial. À ce jour, le réseau de l'OIF compte 13 représentations extérieures qui animent sa coopération et font rayonner la francophonie sur la scène internationale, 3 centres régionaux pour l'enseignement du français et 2 instituts spécialisés dans les domaines de l'éducation et du développement durable. La francophonie, c'est aussi 4 opérateurs et une assemblée parlementaire. Tous les 4 ans, son observatoire de la langue française recueille des données sur le terrain, les analyse et les restitue à travers le rapport « La langue française dans le monde ». Présente sur les 5 continents, la langue française cohabite au quotidien avec plus d'un quart des 6000 langues existantes, dont entre 2000 et 2500 se trouvent sur le seul continent africain. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 321 millions de locuteurs dont 255 millions en font un usage quotidien. Plus de 60% d'entre eux résident en Afrique avec une hausse de 15% depuis 2018 sur ce continent. La langue française est parlée par plus de 50% de la population dans 13 pays et entre 20 et 50% dans 20 pays. En Europe, ce sont près de 136 millions de personnes qui sont capables d'avoir une conversation en français. Dans les pays du continent africain où le français est d'usage quotidien, le français est présent au travail dans tous les cas de figure. Il est même en première position dans les villes de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon et de la République démocratique du Congo. À la maison, la fréquence d'usage du français est moins importante, mais sa position dans la hiérarchie des langues demeure relativement stable. On retrouve même la langue française en première position dans les milieux urbains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Gabon. La variété des expressions et l'inventivité lexicale des francophones renouvellent et enrichissent la langue française, comme le montre le tout nouveau dictionnaire des francophones. Dans le monde, on compte 144 millions d'apprenants du ou en français. Le français est la langue principale d'enseignement dans 36 États ou gouvernements et ce sont 93 millions d'élèves et étudiants qui sont scolarisés en français, dont 54 millions en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien. La francophonie intègre également les langues nationales au sein de ses programmes pour accompagner la formation des maîtres du primaire et le renforcement de politiques linguistiques et éducatives plurilingues, principalement en Afrique. Avec ses 51 millions d'apprenants, le français est également la 2e langue étrangère la plus enseignée, ce qui représente une augmentation de 6,5% par rapport à 2010. Les motivations professionnelles et les possibilités de mobilité internationale que permet la maîtrise du français pèsent de plus en plus dans le choix de cette langue. Dans l'Union européenne, le français est aussi la 2e langue vivante étrangère des enseignements primaires et secondaires. La francophonie est également active dans les industries culturelles et créatives dont le poids augmente chaque année, représentant en 2021 3% du PIB mondial et 6% des emplois. Le rôle croissant que joue le numérique et le phénomène de plateformisation de la distribution des contenus culturels imposent de nouveaux défis pour la diversité culturelle. Face aux contrôles exercés par les plateformes internationales sur les choix de consommation culturelle, grâce notamment aux algorithmes, l'OIF entend renforcer la découvrabilité des contenus francophones au travers de sa nouvelle stratégie de la francophonie numérique 2022-2026. Elle se mobilise autour d'actions de plaidoyer, de sensibilisation et de formation à destination de tous les acteurs concernés. Le français est également la 4e langue d'Internet et la 2e langue la plus cybermondialisée après l'anglais. En tout, ce sont 43% des internautes qui sont plurilingues. Bien que le français soit la deuxième langue des organisations internationales, seulement 4 à 12 % des textes sont produits en français. Pour contrer le danger du monolinguisme et faire reculer le recul du français, la francophonie met en place un nouveau dispositif de veille, d'alerte et d'action pour la langue française et le multilinguisme. Grâce au groupe d'ambassadeurs francophones, aux diplomates de tous ses pays membres, aux alliances avec d'autres espaces linguistiques, plusieurs organisations internationales et régionales comme l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne considèrent le multilinguisme comme une condition essentielle du multilatéralisme et un bien commun à défendre. Du côté des médias, TV5 Monde, l'un des plus grands réseaux audiovisuels mondiaux, s'adresse aux francophones comme aux francophiles dans toute leur diversité linguistique et culturelle grâce au sous-titrage en 13 langues. La chaîne réunit plus de 80 millions de téléspectateurs chaque semaine et est reçue par plus de 404 millions de foyers sur la planète. Sa nouvelle plateforme francophone, TV5 Monde Plus, offre plus de 5000 heures de programmes en accès libre. Ensemble, faisons rayonner la langue française.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Cette année, notre partenaire français du monde, Toronto, vous invite à commémorer le 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Le comité Vimy Toronto 2024, avec ses institutions et associations, a à cœur de continuer cette commémoration afin que vive le devoir de mémoire, l'éducation, la conscience morale et notre engagement citoyen dans la lutte pour la paix dans l'avenir. La victoire de Vimy fut un événement fondateur pour le Canada. Nombre de contemporains et d'universitaires ultérieurs y ont vu un événement important dans l'évolution du Canada vers l'indépendance complète par rapport à la Grande-Bretagne. 107e anniversaire de la bataille de Vimy, le dimanche 14 avril à 10h55, au cénotaphe de l'ancien hôtel de ville de Toronto. Retrouvez tous les détails sur popourrichaud.com. Les citoyens français, aux côtés de leurs amis canadiens, tiennent à exprimer leur reconnaissance et leur respect aux combattants canadiens qui ont combattu sur les terres de France et d'Europe pour défendre notre liberté. Nous comptons sur votre participation pour cette commémoration 2024.
Cause et Culture, le rendez-vous des cultures en Haïti. Ritzamarum Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous, nous continuons à prendre plaisir à vous présenter ce programme, l'un des rares qui résiste et continue à tenir tête à la conjoncture. Cette semaine, je me suis déplacé pour me rendre jusqu'à Delma 32 pour vous apporter votre programme et croyez-moi, dans le contexte actuel, marcher dans les rues est un acte qui devrait être célébré à force que la capitale est devenue invivable ces derniers temps. Mais nous sommes là avec la culture pour boussole, pour vous combler de bonheur et de bonne humeur.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Haïti à la une et un changement au sein du Conseil présidentiel de transition à cause de pression, dit l'intéressé, et pendant que les discussions politiques s'éternisent, la situation ne s'améliore pas, la France poursuit l'évacuation de ses ressortissants. Nous serons en direct dans un instant avec notre correspondante, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Alex Léveillé, on va reparler avec vous de ces évacuations d'Haïti.
Et oui, pour parler de ces évacuations des Français et puis du trafic de cocaïne aussi en Guadeloupe.
Merci, on vous retrouve dans quelques minutes. On parlera aussi aujourd'hui du Venezuela. Dernier jour pour les candidats pour s'enregistrer auprès du Conseil électoral avant la présidentielle du mois de juillet prochain.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Édition spéciale. Émission de clôture du mois de la francophonie en partenariat avec Mama Fété, auteure, membre engagée au sein de la francophonie ontarienne, directrice générale de Sophie Franc.
Et oui, elle nous fera le bilan du mois de l'histoire des Noirs 2024 et le salon du livre des francophonies en Niagara qui a pris fin le 24 mars. Et oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festival Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourichaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Popourichaud, l'esprit d'ouverture. CUT FM. Hommage à Manu Dibango. 4 ans déjà que tu nous as quittés. Cher Manu, c'est à toi.
Manu Dibango, un géant de la musique africaine, star mondiale. Il a fusionné le jazz et le funk avec les sons traditionnels de son pays d'origine, le Cameroun. Il nous a quittés voilà 4 ans déjà. On ne l'oublie pas. Dans le cadre de cette émission de clôture du mois de la francophonie, CUTFM, l'esprit d'ouverture. Surnommé Papa Groove, il était un saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz. Victime de Covid-19, il est mort le 24 mars 2020 en France et enterré au cimetière du Père Lachaise. C'était un artiste très aimé partout sur la planète. Un habitué de RFI dans les couleurs tropicales, et oui, l'émission très très cotée en Afrique, et TV5 Monde. D'ailleurs, j'ai eu le bonheur de le rencontrer à plusieurs reprises à Paris. Il aimait raconter cette petite histoire sur son vécu. Au début, en Afrique, on disait que je faisais de la musique occidentale, que j'étais un noir blanc. Longtemps, j'ai eu cette étiquette. En France, on ne me répétait que je faisais de la musique américaine. Et quand je suis allé aux États-Unis, les Américains ont trouvé que je faisais de la musique africaine. Plus traite que moi, tu meurs. Riche de plus de 40 albums, la carrière de Manu Dibango est exceptionnelle. Manu Dibango, nous ne t'oublierons jamais. Créer, innover, entreprendre en français. Toute bonne chose a une fin. En ce 31 mars, c'est l'émission de clôture du mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM qui brise les codes, la radio inclusive où la langue française a toute sa place. Si la langue française vous enchante, madame, monsieur, vous, les jeunes, vous êtes cordialement invités à nous écrire à popourri@cut.fm. Et courez la chance de gagner un cadeau surprise ou le livre « Les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin », un cabaret musical fantastique aux éditions Prise de Parole de l'auteur Cree Thompson Highway, que nous avons reçu à quelques reprises sur cette antenne. popourri@cut.fm, tirage au sort cette semaine. Et à ne pas rater, une nouvelle voix surprise, à la fin de l'émission. Mais qui est cette voix que vous allez découvrir pour la première fois? Eh oui, pensez-vous que le français est en déclin? Faudrait-il repenser la francophonie? Comment se porte la francophonie du Niagara? Et oui, on décompte près de 13 000 francophones vivant dans la région du Niagara et plus de 34 000 personnes ayant connaissance du français, soit plus de 7,5% de la population de la région. Depuis quelques années, on constate une croissance très élevée de nouveaux arrivants et réfugiés francophones en provenance de l'Afrique, d'Haïti, dans cette région. Nous avons cette chance d'être à l'affût des événements de cette région grâce à notre partenaire de choix, de toujours, Sophie Franc, un organisme communautaire phare sans but lucratif créé en 2007 par des femmes immigrantes francophones. Outre ses services communautaires et recréatifs, Sophie Franc organise chaque année, entre autres, le mois de l'histoire des Noirs en février, avec Festive Eben et le salon du livre des francophonies au mois de mars, dans le cadre du mois de la francophonie. Quel bilan de ces deux événements, deux activités en 2024? On en parle dans quelques fractions de secondes avec sa directrice générale, Mama Fété Kimbiopi. Auteur de Niota, le secret de la plume, aux éditions L'Harmattan, une grande de la francophonie, une grande dame de la francophonie plurielle, avec un parcours exceptionnel. Et nous avons le plaisir de l'accueillir, madame, monsieur, Mama Fété, bonjour.
Bonjour Eric, merci de l'invitation.
Oui, un immense merci d'être à cette dernière émission du mois de mars. Vous savez, c'est très rare maintenant que je passe en studio et c'est tout un honneur de vous recevoir ou de recevoir des invités en direct. Ça fait tellement plaisir. Alors, on ne pouvait pas clôturer ce mois de la francophonie sans parler à Sophie Franc, parce que grâce à vous maintenant, on découvre les richesses, les perles de ces francophonies, sous toutes ces formes, tous ces angles. Et vous êtes une grande ambassadrice de la francophonie. Et oui, c'est comme ça que je vous vois. Quel est le bilan de ces deux événements, c'est-à-dire le mois de l'histoire des Noirs et le salon du livre des francophonies?
Bien, avant d'en parler, permettez-moi d'abord de remercier tous ceux grâce à qui ces deux grands événements ont pu avoir lieu. Pour ce qui concerne le festival, le mois de l'histoire des Noirs de façon générale, parce qu'on a eu beaucoup d'événements durant ce mois-là, C'est grâce au Conseil des arts de l'Ontario et au programme du multiculturalisme de patrimoine canadien, plus nos commanditaires, notamment le centre communautaire le Griffon, qui nous soutient envers et contre tout depuis le commencement. Et ça me fait revenir un peu, parce que je vous ai suivi tantôt sur l'antenne, vous parliez de 15 ans. Non, Eric, nous sommes à notre 17e année déjà dans le Niagara. Mmh. Et concernant le Salon du Livre, un grand merci au ministère des Affaires francophones, bien entendu, nos partenaires Brock, l'université Brock qui a été fantastique, l'école des Beaux-Arts Marilyn Walker qui nous a soutenus aussi, puis le Collège Boréal évidemment qui a énormément participé aussi, contribué à la réussite de cet événement. Je parle là du Salon du Livre.
Alors, vous savez, vous, sans vous interrompre, mais les gens qui nous écoutent à Ottawa, à Montréal, dans la ville de Québec, oui, la francophonie en Ontario, est-ce que ça existe vraiment? Même en France, hein, les gens, des fois, quand je leur dis, moi, je viens de l'Ontario, ah oui? Et ça parle français, là-bas? Ah bon? Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire que, oui, il y a une francophonie régionale, dynamique, et qui est pleine de vie, quoi, parce que, et en plus, très colorée aussi, parce que vous avez des gens en provenance de partout de la planète, n'est-ce pas?
Absolument. Il existe une francophonie avec une très grande vitalité ici dans le Niagara, une francophonie qui résiste à l'influence de l'anglais, notamment. Nous avons quand même 13 écoles francophones dans le Niagara, ce n'est pas peu dire. 13 écoles, dont 11 écoles élémentaires et 2 secondaires, qui fonctionnent parfaitement bien. Bien sûr, de façon générale, vous suivez tout à l'heure, vous parliez d'une baisse du français un peu partout. On a remarqué ça à travers un peu les différentes régions francophones du Canada, de façon générale, de l'Ontario, je pense en particulier. Mais quand même, nous sommes là, nous sommes bien vivants, nous avons des activités justement pour revitaliser notre francophonie et puis pour nous maintenir en vie. Nous avons des organismes francophones qui fonctionnent très très bien. Nous offrons, il y a beaucoup de services en français. Effectivement, nous avons un afflux de réfugiés qui nous arrivent de l'année passée, et donc ce qui renforce un peu beaucoup la francophonie du Niagara et puis de l'Ontario. Et par ailleurs aussi, dire que la francophonie du Salon du Livre, on a tenu à changer un peu du Salon du Livre francophone au Salon du Livre des francophonies, parce que la reconnaissance au sein de la francophonie est absolument indispensable, et je pense un point qui est très important aussi sur le...
On a des coupures, malheureusement, hein. On sent qu'on ne vous entend pas très très bien. Allez, poursuivez. Continuez.
Je suis vraiment désolé, là. Non, je disais qu'un point sur lequel j'ai tenu à beaucoup appuyer, c'est celui des franco-ontariens. Ça, c'est un peuple qui existe aussi, qu'on a tendance à noyer un peu dans la francophonie. Et pour que nous puissions tous avancer d'un seul mouvement, avec un cœur, avec sérénité, il est important que la population franco-ontarienne soit aussi reconnue dans son originalité, son existence, sa réalité, et surtout dans son combat, parce que aujourd'hui, si on parle des services en français, c'est parce que ce peuple était là pour se battre, et quand il se battait, il luttait pour obtenir tous ses droits, nous n'étions pas là, donc on doit le reconnaître, et il doit aussi se manifester comme peuple, de manière à ce que, au lieu d'être parfois sur la défensive, c'est l'impression que nous avons, qu'au contraire, qu'il soit reconnu et qu'ensemble nous puissions avancer d'un seul mouvement pour obtenir d'autres droits qui ne sont pas encore acquis.
Vous ne pensez pas qu'il y a aussi un manque d'information ou d'enseignement de l'histoire de la francophonie ontarienne? Parce que j'étais au CREFO et dans d'autres instances pendant tout le mois de mars, et j'ai découvert que les jeunes et même des fois des adultes et même des gens dans le corps de l'enseignement connaissent très très peu les petites batailles ou les grandes batailles qu'ont mené justement les franco-ontariens depuis plus de 400 ans sur ce territoire. Par exemple, il y a le règlement 17, il y a toutes les batailles pour les conseils scolaires, il y a aussi les lois sur les services en français qu'on a failli perdre. Donc, Et les gens qui arrivent ici, qui épousent cette province comme pays, nouveau pays, souvent ils ne connaissent pas nécessairement le trajectoire des franco-ontariens. Donc il y a comme un vide là entre les néo-canadiens et les franco-ontariens. Que peut-on faire pour justement rapprocher ces deux groupes ensemble et apprendre l'histoire, mais aussi voir l'évolution de la francophonie et de la langue en 2024?
Je disais ceci, que c'est une question fondamentale. Et je peux appuyer en disant que les immigrants qui arrivent ici ignorent qu'il existe l'existence de ce peuple. Il y a un grand vide, et ce vide qui est très sérieux, et je pense que la question des franco-ontariens est à la base un peu de toutes les résistances que nous rencontrons lorsque nous parlons de la francophonie. C'est un peuple qui se sent marginalisé. C'est mon impression au bout de presque 20 ans ici dans la région. Et non seulement il se sent marginalisé, mais c'est un peuple aussi dont on ignore l'histoire tout simplement. L'immigrant ou le réfugié qui arrive ici ignore totalement qu'il existe un peuple franco-ontarien. D'où mon insistance à introduire justement la discussion sur la francophonie ontarienne. Et je pense que c'est un point qui devrait être mis à l'ordre du jour de toutes les discussions. Il faut qu'on ait tous le courage et les franco-ontariens en tête, parce que ce sont eux qui sont concernés, et nous autres les immigrants, pour les écouter, qu'on puisse se mettre ensemble pour en parler.
Oui, et ce message, je pense que vous passez là ce matin à nos auditeurs, j'espère que ça tombe aussi dans les oreilles de nos académiciens, des professeurs sur nos campus, que les gens se sentent concernés. C'est pas une histoire juste de la radio ou d'un petit groupe de, on nous appelle souvent des activistes, des militants. Alors, or que quand on parle français en Ontario ou au Canada, c'est une vraie bataille de combattants, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas s'asseoir et en pensant que tout va nous tomber entre les mains et que ça va être facile. Je pense que on fait face à l'anglicisme, à des anglicismes. La force, je dirais, des médias anglophones, mais aussi des Américains, parce qu'il y a beaucoup de médias américains qui se propagent maintenant à travers les réseaux sociaux sur nos campus, et ça change la donne. Quand il y a un problème, là, je vois qu'il y a une tendance à renverser les valeurs autour de la diversité, par exemple, sur nos campus, dans nos universités, et ben ça commence à prendre du terrain aussi en Ontario. On sent que l'éducation des gens, par exemple, l'éducation en français, il y a de temps en temps des groupes, y compris des politiciens anglophones, qui haussent un peu le ton en disant que est-ce que c'est vrai, ils remettent en question finalement les droits acquis des francophones, et ça risque de devenir un jour un danger, et un enjeu politique, mais aussi un enjeu pour la communauté francophone. Donc tout n'est pas gagné.
Rien n'est encore gagné, et moi, ma seule inquiétude, ma préoccupation, c'est que aussi longtemps que les francophones entre eux ne pourront pas travailler de façon harmonieuse, ça risque de devenir plus dangereux. Pour cette raison, j'insiste table et qu'on commence par là. Pourquoi j'insiste? Parce que nous sommes dans une... Il y a plusieurs feux croisés sur les francophones. Et à commencer aussi par les francophones qui sont dans une sorte de par cette invasion des immigrants, parce que c'est comme ça que c'est un peu perçu, mais ils sont... C'est parce que le gouvernement a une certaine tendance, et ça peut se comprendre à un certain niveau, à parler de la francophonie en général. Et dans cette francophonie, c'est comme un fourre-tout. Alors que dans cette francophonie, il y a plusieurs courants. Et le courant premier, pour ce qui concerne l'Ontario, ce sont les franco-ontariens. Donc eux, ils doivent être sur la table, ils doivent être reconnus au même titre qu'on reconnaît les terres pour les autochtones qui se sont battus pour ce droit-là aussi. Ils se sont battus. Or, les franco-ontariens... Il n'y a pas encore, enfin, on ne sent pas suffisamment cette lutte-là pour s'imposer en tant que peuple franco-ontarien qui doit être reconnu comme un courant, comme une composante de la francophonie, et à tous les niveaux, et qu'ils fassent cet effort de véhiculer, de raconter ça, que ce soit dans les livres.
La semaine dernière, nous recevions Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, et elle n'a cessé de marteler justement que le gouvernement fédéral devrait avoir une cible d'immigration francophone plus agressive pour sauver le français en déclin. Pensez-vous que c'est ça la solution? Est-ce que l'immigration francophone pourrait être un genre de bouée de sauvetage de la francophonie canadienne?
Oui, absolument. Là-dessus, aucun doute n'est permis. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'immigration francophone qui va sauver la francophonie. Mais j'insiste encore, pour qu'elle sauve la francophonie, il faut déjà que sur place, elle trouve une francophonie qui existe et qui collabore et qui coopère et qui ne la considère pas comme un danger qui vient carrément la noyer totalement. Au contraire, elle doit la considérer comme une béquille qui vient l'aider à s'équilibrer. Et ça, c'est très important. D'où cette espèce, enfin, je vois ça comme une concertation ou comme une consultation ou comme une conversation, peu importe le mot qu'on va trouver pour donner à ça, mais c'est extrêmement important qu'il y ait cette collaboration, cette coopération à ce niveau-là.
Et au niveau des médias, notre engagement, ça vous le savez de quel bois on se chauffe, n'est-ce pas, depuis qu'on se connaît, TV5 Monde, RFI, France 24, à chaque fois qu'on a des réunions de travail et lors de mes visites à Paris, je ne cesse de leur dire qu'il faut aussi couvrir ces francophonies à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et là, cette année, on a vu leur effort d'aller à la Nouvelle-Écosse, d'aller au Nouveau-Brunswick et d'aller à la Louisiane. Et qui sait, peut-être un jour, on viendra faire des émissions en direct à Niagara, pourquoi pas?
On vous attend à bras ouverts. On vous attend vraiment à bras ouverts et c'est là que vous allez voir vraiment palper du doigt le visage de la francophonie du Niagara.
Il faut montrer aussi que c'est une francophonie vivante parce que je pense les jeunes, souvent, quand ils nous regardent, ils regardent des gens qui sont très engagés comme vous dans la francophonie, ils disent « Ah oui, c'est toujours des réunions, des colloques, et puis on parle, et on parle, et on parle, et ils se sentent perdus dans tout ça. » Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre cette francophonie un peu joyeuse, un peu attirante, attrayante? Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu innovateur? Je ne sais pas. Enfin, je sais qu'on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas beaucoup de pétrole, n'est-ce pas? Mais il faut trouver des moyens, n'est-ce pas? Utiliser les réseaux sociaux, par exemple. Je ne sais pas. Il faut trouver des moyens parce que vous savez, sur nos campus, dans les cours de classe de récré, des conseils scolaires de langue française, ça parle anglais. Il faut bien admettre. Ça parle anglais avant tout. Quand on le regarde avec leur téléphone cellulaire portable, et souvent, ce sont des réseaux sociaux anglophones.
Mais bien sûr, ça c'est clair. Et même comment on ne parle français que dans les salles de classe, hein, parfois.
Oui.
Vous allez dans les couloirs, c'est déjà l'anglais.
Oui.
Mais je pense que pour sauver une des solutions, c'est pas la solution, mais une des solutions serait de donner un peu plus d'espace aux jeunes. Mmh. C'est-à-dire, quand je dis donner l'espace, c'est-à-dire donner la parole aux jeunes, écouter les jeunes, les laisser organiser, par exemple, certains programmes ou certaines activité, les appuyer là-dedans. Parce que les francophones, nous avons cette culture en tant qu'adultes de penser que nous connaissons très bien nos enfants et nous savons ce dont ils ont besoin.
Or,
c'est faux,
ça
ne fonctionne plus comme ça.
Ou souvent on dit, ah, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire.
Exactement, c'est ça. Et c'est ça qui fait que comme ils n'ont rien à dire, ils ne disent rien, mais ils vont s'intéresser à autre chose. Mais si on les écoutait un tout petit peu, qu'on leur donnait la parole, ils ont beaucoup à dire, ils peuvent organiser même des programmes que nous, les adultes, allons suivre et trouver extrêmement intéressant.
Et aujourd'hui, nous avons une exception. Pas aujourd'hui, on donne toujours la parole aux jeunes. Mais on a à la fin de l'émission une surprise. Une jeune voix de la francophonie qui va nous parler. C'est la surprise. Je ne dis pas son nom pour tout de suite. Mais pour terminer, j'aimerais qu'on salue le travail de tous ces artistes, parce que le travail qui est fait dans le cadre du mois de la francophonie, mais aussi chez vous pour Festive Eben et le Salon du Livre des Francophonies Niagara, c'est le fruit d'une collaboration pluridisciplinaire avec plusieurs organismes,
absolument,
des artistes, des écrivains. Chevronnet, d'ailleurs, vous saluerez la directrice générale du salon de cette année.
Merci, Faïgou. Elle a fait un travail exceptionnel.
Exactement.
Absolument.
Alors,
exceptionnel.
Et ça, c'est la clé, hein. C'est d'intéresser ces gens. Souvent, ils disent, ah ben, moi, je préfère aller à Toronto ou bien à Ottawa parce que tu sais, c'est une grande ville et puis on peut faire des choses, visiter les musées, les galeries et tout ça. Mais Niagara, il n'y a rien à faire à part les chutes du Niagara. Mais pour attirer ces gens, les intéresser à venir chez vous, à Welland, à Niagara et Sainte-Catherine, je trouve ça formidable. Et là, vous avez des gens qui vous disent « Attention, je reviens l'année prochaine hein !»
Absolument. Pratiquement tout. On a eu du mal à se séparer. C'était quelque chose d'assez, c'est assez étonnant. C'est comme si on flottait un peu sur un nuage à la fin. On avait du mal à se séparer. Ça a été un salon exceptionnel avec beaucoup, comment est-ce que je vais qualifier ça? Il y a eu beaucoup de moments extraordinaires de joie, d'amour, de partage, de convivialité, de générosité. Nous avons eu 29 activités, Eric, 29, dont 10 ateliers jeunesse, des tables rondes, des conversations, deux spectacles, une soirée de poésie. Au total, 29 activités sur 5 jours.
Bravo.
Ça a été fantastique.
Et Festive Eben aussi a eu beaucoup de succès cette année.
Ah oui, oui, oui. Nous avons eu donc des collaborations. C'est ça qui est très important. Nous collaborons avec le CEFOF, le Centre de folklore ontarien francophone du Nord, qui est à Sudbury. Mmh. Et nous avons, nous sommes dans la deuxième session de votre foyer au nôtre. Et donc, on a tenu une soirée ici dans le Niagara, puis ensuite, nous sommes allés à Sudbury, soirée de contes, de musique, un mélange absolument judicieux d'artistes de la francophonie immigrante avec les franco-ontariens. C'était quelque chose de fabuleux. Puis la soirée spectacle du 24, ça c'est fantastique. J'ai vu des revenants en fait, hein. C'est comme ça que j'ai qualifié ça, des personnes qui sont venues de Toronto, qui sont venues de même, de Montréal, Ottawa, Hamilton, ils sont venus, on a dansé, c'était quelque chose d'extraordinaire. On voyait que les gens avaient envie de s'éclater, ils voulaient changer, et on a eu, en fait, on a anticipé à peu près, comme d'habitude, une centaine de personnes, on a eu le double. C'était quelque chose de fantastique.
Vous saluerez bien Justine de notre part, parce qu'elle était au micro au début du mois de février. Alors, elle est formidable, elle chante, elle joue, elle danse, elle anime.
Elle est fantastique. comme ben, je la recommande comme maîtresse de cérémonie, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Donc, elle a mis du sien aussi. Ça a été quelque chose de fabuleux. En tout cas, on s'est senti bien, s'est senti en famille, on s'est relaxé, on a oublié un peu ses ennuis. C'était très très bien. Ça, c'était pour le 24, mais pour le Salon du Livre aussi, c'était quelque chose de magique, de fantastique.
Alors, tous ces gens qui nous écoutent, Niagara ou voilà.
Et rendez-vous à l'année prochaine.
Et puis, on leur dit aussi que le micro est ouvert. Si vous avez des choses à dire, vous avez des belles choses à partager, vous avez des défis que vous rencontrez, côtoyez dans votre région, nous voulons vous entendre. La parole est aux auditeurs du Niagara de Wellen. Alors faites-nous signe, popourri@cut.fm, ou allez sur le site web de Sophie France si vous voulez avoir des renseignements sur cet organisme qui fait un travail extraordinaire dans ce coin du pays. Sophie France, sophiefranc.org. Là, vous allez avoir tous les numéros de téléphone et les adresses courriel. Alors, belle équipe donc que je salue, et puis vous faites un travail extraordinaire. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre dévouement, chère Maman Fété, votre combat pour les francophonies, une société plus juste. C'est ça votre combat, hein?
Oui, plus juste, c'est vrai, plus harmonieux voilà. aussi. Voilà. Et qui se comprend très bien, les gens se comprennent et communiquent.
Ça, c'est extrêmement ayant quitté son Congo natal, Madame, Monsieur, elle vit dans la ville de Wellen, dans la région du Niagara depuis 2005. Elle a travaillé depuis à dynamiser la communauté immigrante francophone en aidant à l'intégration des nouveaux arrivants. Et merci encore du fond du cœur à vous et votre belle équipe, et que la force soit avec vous. On se revoit, j'espère, un jour, peut-être en direct, on fera une émission. Je rêve de ça, hein. Il faut qu'un jour, avec notre studio mobile, qu'on se déplace, qu'on aille au Niagara. Je suis convaincu qu'on va bien s'amuser.
Avec grand plaisir, absolument. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour l'invitation.
Oui. Alors, bon mois de la francophonie pour ce qu'il nous reste aujourd'hui, et tous mes vœux les meilleurs et bon vent dans tout ce que vous entreprenez dans le coin de Niagara.
Merci beaucoup, Eric.
Au revoir.
Au revoir.
Pieds-moi dans les parfums, il faut grandir fait royaume des vagabonds. Que personne félicite ces petites filles ou petits garçons. Les choix sont très limites, auras sont les pardons. Si tu trouves la réussite, venu de loin, tout ce que j'ai, y'a personne qui n'a offert. Gauche à la opère, et merci de m'avoir laissé par terre. Autour de moi, dehors, la loi, danger dans l'atmosphère. Au sortir de noir, fallait y croire et jamais se laisser faire. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai, les comptes pour contraire. Bienvenue dans le hood où les familles cassent sans sang.
Dans cette jungle, c'est belle, faut faire attention. Mauvaise tentation, et méchante intention. Grandi dans un trou noir, mais on est là, comme dans nos territoires. Mais on est là, lourd de notre histoire. Mais on est là, mais dis bien que la trajectoire.
Pourri chaud, l'émission, l'esprit d'ouverture, émission de clôture avec le Flo Franco, un des porte-parole des rendez-vous francophones du Canada qui se termine aujourd'hui. On a eu un succès incroyable, un bout à l'autre du pays, et merci de cette belle collaboration. Le Flo Franco qui vit à Ottawa, donc un franco-ontarien d'origine haïtienne, grandi à Paris, et aujourd'hui, il roule sa bosse dans l'est de l'Ontario, c'est-à-dire Ottawa. Le Flo Franco que vous retrouvez sur notre site web popourrichaud.com. L'esprit d'ouverture.
La trajectoire, so yeah, on est là. On vient du bas faire, mais on est là, yeah. On a connu l'enfer, mais on est là, yeah. On vient du bas faire, mais on est là, yeah. On a connu l'enfer, mais on est là, yeah. On est dans un trou noir, mais on est là, comme dans nos territoires. Mais on est là, lourd de notre histoire. Mais on est là, mais dis bien que la trajectoire.
Et oui, c'est la dernière ligne droite de notre émission spéciale, édition spéciale, émission de clôture du mois de la francophonie. Et oui, c'est fini maman, c'est fini. La francophonie en mouvement, c'est la dernière ligne droite donc avec une nouvelle voix. Gracieuseté de notre partenaire de toujours, les éditions Prise de Parole. Elle est trilingue, français, anglais et allemand. Mais qui est-elle? Elle est chargée des relations de presse et de la communication chez les éditions Prise de Parole depuis 2023. Elle est encore jeune, dynamique, elle fait un travail formidable. Elle a été traductrice littéraire et journaliste en France. Elle a une double licence anglais et allemand en littérature, civilisation, traduction, communication de l'université de Bordeaux, Montaigne, Bordeaux, en France. Elle est jeune, dynamique, elle a une passion pour le monde des maisons d'édition. Pourquoi? Comment expliquer? Et oui, aujourd'hui, elle nous offre des cadeaux. J'attends votre message à popourri@cut.fm. Popourri Show remercie chaleureusement ceux et celles qui ont contribué au succès de sa 37e édition du mois de la francophonie. Et oui, notre succès, c'est votre succès. Et oui, on applaudit chaleureusement Élie Bizali. Bonjour Élie.
Bonjour Eric, merci pour l'invitation.
Ah, c'est ta première émission de radio, n'est-ce pas? Oui.
Oui, c'est ça.
Alors bienvenue chez nous, bienvenue chez toi à Hot House Studio. C'est un milieu extraordinaire. J'espère qu'un jour tu auras l'occasion de venir nous rendre visite à Toronto. Nous avons un très bon campus, très très beau bâtiment. Hot House, c'est un immeuble historique. Alors et nous, la station de radio CUTFM en fait partie. Alors avant d'aller plus loin, je rappelle aux auditeurs que tu es jeune, on voit d'après ton parcours, tu as une passion pour les langues, les littératures. Pourrais-tu partager aux auditeurs en deux mots ou décrire brièvement d'où vient cette passion des littératures mais aussi des langues?
Je pense que j'ai grandi dans un milieu extrêmement privilégié avec une famille qui a toujours beaucoup lu et qui m'a toujours énormément encouragée à lire. Donc pour ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai baigné là-dedans depuis toujours, depuis toute petite. Donc c'est ça essentiellement qui a nourri ma passion pour la littérature et les langues étrangères également.
Ouais, je fais la navette, comme tu sais, entre la France et le Canada, et des fois on rate vos messages, hein, parce que malheureusement avec le décalage horaire, et on entend souvent les linguistes dans certains milieux académiques, dans certains médias, tirer la sonnette d'alarme. On prétend que les jeunes ne lisent plus, ne parlent plus le français convenablement. Qu'en penses-tu de ces critiques?
Je pense que moi j'ai grandi dans la campagne un peu en France, donc j'ai toujours eu la chance en fait d'avoir un peu les deux visions dans les deux mondes. De par ma famille très privilégiée, forcément j'ai appris à soigner ma langue et mon français, mais à l'école c'était un peu une autre langue qu'on parlait effectivement, et puis et c'est correct aussi, je pense que c'est ça qui fait la richesse de la France. Et puis quand je rentre en France maintenant après des années à vivre au Québec, on me fait remarquer que ma langue a changé, que je dis des expressions qui sont pas trop connues en France, etc. Mais je trouve que c'est là toute la richesse de la langue, et que c'est ça qui est beau et ça qui me plaît aussi.
Mais moi, quand je passe en France, on me dit toujours « Ah, tu es du Canada, mais comment se fais-tu? Tu n'as pas l'accent. »
Oui, non, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés en France, malheureusement. Mais bon, j'essaie de les éliminer.
Oui. Quel est ton emploi du temps chez Prise de Parole? D'ailleurs, je rappelle aux gens qui sont à l'étranger, Prise de Parole, cette maison d'édition qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, est située à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Et toi, tu vis, je pense, au Québec. Hein? Alors, comment ça se passe pour faire la navette? Vous travaillez à distance?
Oui, je suis essentiellement en télétravail depuis Montréal. Mon responsable direct, Stéphane Cormier, aussi à Montréal, donc ce qui permet de faciliter parfois des rencontres réelles. Mais sinon, oui, essentiellement, je suis en télétravail.
Oui. Alors, quelle est la fonction d'une attachée de presse ou chargée de presse?
J'ai quand même deux mandats principaux. Le premier, c'est d'appuyer la maison d'édition pour promouvoir son catalogue, mais aussi les autoristes, auprès des acteuristes de l'écosystème du livre comme les médias, les libraires, les journalistes, etc. Donc pour ça, je m'occupe des relations de presse de différents titres de la maison par an. Et puis sinon, mon deuxième mandat, c'est aussi beaucoup de coordonner des événements, que ce soit des événements littéraires comme des lancements, mais aussi un des plus gros mandats là depuis que je suis en poste, c'est l'exposition sur un certain de résistance autochtone. Qui est à propos de la bande dessinée de Gordil, publiée par Prise de Parole en 2023.
Oui, et tu rencontres aussi des auteurs très intéressants. D'ailleurs, je pense que tu as déjà rencontré notre première invitée d'aujourd'hui, professeur Aurélie Lacassagne.
Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'un lancement. C'était le lancement de l'essai Trash d'Isabelle Kiroak-Massicotte à Montréal, qui avait eu lieu à Montréal. Et c'est Aurélie qui animait la conversation, la causerie.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu des activités spécifiquement dans le cadre du mois de la francophonie cette année?
Prise de Parole avait différentes activités. Il y avait notamment le vernissage de l'exposition dont je parlais à l'instant dans une librairie à Montréal qui s'appelle La Librairie. Après, il y avait l'auteur Claude Guillemin qui participait à un club de lecture dans la librairie Il était une fois pour son roman Wellsford. On avait aussi, il y avait ma collègue Sonia Malaborza qui avait fait une conférence sur le rôle de la littérature dans la lutte au changement climatique. Donc il y a toujours beaucoup d'activités et c'est très agréable. Et notamment pendant ce mois de la francophonie, où il y en a eu plusieurs.
Oui. Je sais que de temps en temps, notre ami Stéphane Cormier participe à des salons du livre à l'étranger, hein, en France, même en Allemagne et maintenant dans les pays du Sud. Et est-ce que il y a du chemin encore à faire sans doute, hein, pour faire connaître les écrivains canadiens, surtout de l'Ontario, parce que les Québécois ont un peu plus de chance parce qu'il y a des grands salons littéraires, n'est-ce pas, au Québec.
Oui.
Mais ça, c'est toujours un mystère pour les Bretons que je rencontre ou les Parisiens quand je leur dis qu'il y a des auteurs, il y a des gens qui écrivent très très bien ici en Ontario. Ils me regardent d'un air alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement faire rayonner cette culture franco-ontarienne, ces écrivains, ces auteurs hors les frontières de l'Ontario et surtout à l'étranger en Europe?
Je pense qu'il y a des passerelles qui peuvent être faites, notamment je sais que le RESC, qui Donc, qui représente ces différentes maisons d'édition, dont Prise de Parole va être présente au Festival du Livre à Paris, là, qui se tient en avril. Mmh. Donc, j'imagine que ça va être aussi l'occasion de faire connaître les éditions franco qui sont en dehors du Québec. Et puis, sinon, par le biais d'expositions, je pense, ou de relations de presse, de communication sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un travail à faire pour éveiller l'Europe francophone. Aux littératures francophones qui sont dans tout le Canada et pas seulement au Québec.
Oui, mais ils sont très intéressés, hein. Certains sont même très curieux. Et oui. Moi, je dirais que actuellement, les auteurs autochtones ont la cote dans certains milieux en France. Parce qu'il y a comme un réveil, parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années au Canada, la commission de réconciliation avec les autochtones, je pense qu'il y a certains milieux en France et en Europe qui s'intéressent aux cultures des autochtones, et ça, je pense, c'est bien, hein, de voir que finalement, oui. Et pas seulement les livres, mais aussi les œuvres d'art des autochtones, ça, c'est toujours... Si vous allez en Europe, vous achetez un petit cadeau autochtone, et ben je vous dis que les gens vont vous aimer.
Oui, tout à fait, non, c'est vrai, il y a un vrai intérêt, et même au niveau universitaire. Je sais que pendant mon bac en littérature civilisation anglaise, j'avais aussi des cours qui concernaient... la culture et l'histoire des peuples autochtones au Canada et aux États-Unis.
Et je trouve bravo aux éditions Prise de Parole parce que vous avez des traductions. Justement, cette saison littéraire annonce deux beaux titres en ce moment chez vous. Il y a deux parutions très attendues. Thompson Highway, l'auteur du best-seller Le baiser de la reine blanche, traduction de Prise de Parole. Les incroyables aventures de Marie-Jeanne Maringouin. Disponible en librairie, album illustré destiné aux enfants de 8 ans et plus, est une ode à l'acceptation de soi et des autres. Marie-Jeanne, une jeune fille moustique dépourvue d'elle, constamment rejetée et humiliée pour sa différence, lutte pour trouver sa voix. Présentée sous la forme d'un cabaret musical, l'histoire fait écho à la carrière du pianiste de Highway et de son esprit fantaisiste légendaire. Elle rend aussi un puissant hommage à l'art, considéré ici comme un vecteur d'émancipation. La traduction réalisée par le compositeur et auteur Carl-Philippe Gionnet transpose avec brio la musicalité du texte. Par ordre de comparaison des albums illustrés de la série Chansons du Vent du Nord, du même auteur, se sont vendus à 4500 exemplaires. Donc, tirage au sort, madame, monsieur, de ce beau cadeau à un de nos auditeurs, hein, qui sait, potpourri@cut.fm. Élie Bizali, chargée de presse et de communication chez Prise de Parole. Donc, je ne t'ai pas trop magané, j'espère.
Non, ça me parfait.
Voilà, parfait, c'est un mot que les Français ne connaissent pas. Alors, quand je m'amuse quand je suis en France, j'utilise les mots, des expressions québécoises. Alors, les gens rient et ils aiment, ils s'amusent. Comme en France aussi, il y a des expressions typiques, n'est-ce pas? Alors, tu as été formidable. Merci beaucoup. Et je pense que c'était important pour nous de terminer ce mois de la francophonie avec une voix jeune, dynamique. Tu es confiante pour l'avenir de la francophonie? Ça est resté au Canada pendant longtemps? Rêve, quels sont tes plans?
Oui, bien sûr, oui, j'ai l'intention de rester. Je me sens très bien et je commence à avoir mes repères dans le milieu littéraire ici au Canada et j'ai bien l'intention de rester, oui.
Mille merci et tu diras bien le bonjour à toute la belle équipe des éditions Prise de Parole. Je remercie aussi professeur Aurélie Lacassagne, nouvelle rectrice Université de Hearst, Madame Fete Ngira Batware Kim Biopi, directrice générale de Sophie Franc, DJ Devora bien sûr pour la mise en onde et toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés en ce mois de la francophonie, même si j'étais pas toujours présent au Canada. Alors, merci spécial au CREFO, Cinéfranc pour leur amitié, leur fidélité et partenariat. Cette émission sera disponible sur notre site web dès ce soir, popourrichaud.com. Merci encore, Élie, et à très bientôt. Je te souhaite bon courage, bon vent, et je vous laisse, madame, monsieur, sur un air de Manu Dibango, un hommage pour marquer sa disparition 4 ans déjà. On ne t'oublie pas, Manu. Au revoir et à dimanche prochain.